Bonsoir Diaty Diallo.
Bonsoir.
On est avec vous pour évoquer Daria et Dounia, sortis aux éditions du Seuil. Est-ce que vous avez réalisé un certain nombre de choses qui vous ont amené à les écrire, ou est-ce l'inverse ?
Oui, il y a un point de départ à l'écriture de ce livre, c'est une petite goutte d'eau sur le terrain personnel, je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais qui a fait que je me suis rendu compte que la vie d'une personne, la vie d'une femme et la vie d'une femme noire en France est ponctuée d'événements qui l'abîment tout au long de son existence. Je me disais qu'à défaut de pouvoir revenir sur chacun de ces événements-là, il était possible d'y accorder un petit peu de temps par écrit. Et j'ai commencé à écrire une série de lettres que j'ai nommées dans le livre « Lettres de haine » et qui a été le matériau principal et premier du roman. Et en les écrivant, je me suis rendu compte que c'était peut-être dommage de rester cantonné à la haine ou à la colère et de pas élargir un peu la palette de sentiments et d'émotions de la narratrice Dounia. Et est apparue une version, une partie, peut-être sa partie dissociée d'elle-même, qu'elle a nommée Dounia d'après son deuxième prénom et qui est un autre personnage auquel elle s'adresse tout le long du bouquin et avec lequel elle essaye de se réassocier, de se réparer peut-être. Donc voilà, c'était un petit peu le point de départ de l'écriture.
C'est-à-dire que vous avez démarré, on a la sensation que vous avez pris des notes, et puis tout d'un coup, ça a commencé à faire un livre, et puis qu'en même temps, vous avez continué à faire ce livre, mais on a la sensation dans la forme que prend votre écriture, dans la façon dont vous nous embarquez avec vous, d'un chemin très original d'écriture, qui est aussi lié à l'oralité, puisque dans ces lettres que vous citez, il y a aussi des lettres dont vous dites « enregistrement ».
Oui, alors effectivement, donc il y a pas mal de moments en fait de l'écriture qui m'échappent pour des raisons de dissociation, clairement. Donc je me souviens pas exactement de tout parce que l'écriture c'est un peu un tunnel et parfois, à force de pas relever la tête, j'ai l'impression je sais pas, c'est comme s'il y avait des moments de la vie qui tombaient dans des trous noirs. Bref, moi j'ai des petits bugs de souvenirs. Parfois je me souviens plus comment j'ai fait les choses ou même comment je les ai réfléchis ou comment certains détails de l'histoire sont apparus. Mais effectivement, il y a eu pas mal de recherches que j'ai menées en amont de l'écriture. Il y a eu la vie également. Il y a eu des prises de notes, bien sûr. Et puis après, il a fallu sélectionner ce qui était intéressant de mettre en récit et ce qui ne l'était pas. Sachant que tout ce qui nous arrive, parfois, il y a des choses extrêmement importantes pour nous, mais qui sont pas si intéressantes que ça à raconter. Donc c'est comment, qu'est-ce qui est intéressant et surtout comment on le rend intéressant. Donc ça, c'est vraiment un travail assez conséquent, je dirais. Et oui, il y a eu. Alors, je vais pas dire une recherche formelle parce que c'était pas consciemment comme ça que je l'ai fait, mais en tout cas, ces lettres de haine, il y en a que j'ai écrites directement à la main et d'autres que j'ai écrites à l'oral. Même si je les ai toujours reprises, donc elles sont écrites en plusieurs temps, mais les premiers jets parfois ont été oraux. Et donc il y a eu tout un travail pour conserver cette oralité-là, les hésitations. Ce qui est intéressant avec le fait d'écrire à l'oral, c'est que il y a des choses qui apparaissent une fois passées à l'écrit. Qui peuvent être assez intéressantes comme des lapsus, des hésitations, des silences à certains moments. En fait, ça fait vraiment apparaître quelque chose que l'écrit montre pas. En fait, vraiment, moi parfois en repassant, ce que je faisais, c'est que j'enregistrais d'une traite une lettre, par exemple, une adresse, et ensuite j'utilisais un logiciel de retranscription Puis du coup, j'avais la lettre et ça permettait de voir apparaître justement des moments où la phrase, elle se casse, où on la reformule, où on ne sait plus ce qu'on voulait dire, où on s'est perdu, où on digresse. Et du coup, toute cette matière-là, elle était vraiment hyper intéressante à travailler pour savoir ce qu'on laisse et qui va faire la force du personnage, qui va donner des éléments aussi pour la comprendre et puis ce qui doit aller à la poubelle.
Ça donne un rythme à votre écriture qui est singulier et puis assez puissant, qui rejoint le fond de ce que vous racontez avec une forme, je le disais, hein, qui est très originale. Mais on a l'impression aussi, et en fait en vous écoutant, ça me conforte dans l'idée qu'on a. Donc on a l'impression aussi qu'il y a quand même dans ce livre-là un travail sur la mémoire, le souvenir. C'est très important. D'ailleurs, vous dites des choses assez fortes comme le fait que, par exemple, vous aimez, enfin, le personnage aime des souvenirs d'instants répétés qui, au final, font un seul et même instant long. Et donc, c'est un rapport à la mémoire qui est assez intéressant dans ce côté à la fois de laisser des traces, mais en même temps de sélectionner ce qui fera trace.
Oui, c'est une question vertigineuse que celle de la mémoire. En fait, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a la mémoire politique, je vais l'appeler comme ça. Le terme, il n'est pas super adéquat, mais bon, ça ira pour ce soir peut-être. J'en trouverai un mieux en y réfléchissant un peu plus. Et puis l'autre, peut-être, c'est la mémoire intime. Mais les deux, ça va ensemble, en fait. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu presque bête de les différencier. Mais disons qu'il y a le personnage de Dounia donc, qui fait ce constat-là. Donc elle a 31 ans. Il lui arrive un peu tout en même temps, comme dans certains moments de la vie. Donc là, elle perd son taf, elle perd son mec, elle perd son appart et d'autres choses encore. Et donc, ça fait beaucoup. Elle doit déménager de fait, donc elle commence à ranger ses affaires. Et puis, elle se rend compte que tout un tas de cartons qu'elle n'avait jamais vraiment ouverts parce que contiennent un peu tout le bazar accumulé sur des années, notamment des papiers administratifs, des trucs comme ça. Enfin bref, des choses pas sexy à regarder. Elle se dit, je vais quand même faire un petit coup de rangement pour voir ce qu'il en est, quoi. Elle est comme un peu aspirée par ces affaires-là qui la guettent un peu dans le coin d'une pièce. Et en faisant ce mouvement-là, en fait, elle se rend compte que elle pensait avoir gardé beaucoup moins de choses, ou plutôt elle pensait, disons que elle s'était vraiment arrêtée sur le fait qu'il manquait des archives à sa vie, notamment elle a pas beaucoup de photos d'elle à certains âges. Mais en fait, elle se rend compte que peut-être qu'elle n'a pas ça, mais elle a gardé quand même pas mal de petites choses qui paraissent triviales sur le moment, mais qui en fait, mis bout à bout, racontent une petite existence, quoi. Donc voilà, des choses qu'elle a gribouillées sur un coin de carnet, des photos qu'elle a prises, donc on la voit pas dessus, mais on voit son regard vers où il se dirige, etc. Et donc comme ça, ça forme une constellation qui lui permet de revenir et de reformer des souvenirs et de reformer aussi une relation avec la petite personne qu'elle était. Et puis il y a la mémoire politique. Et en fait, c'est vraiment en lien dans le livre. C'est vraiment comment l'existence de certaines personnes, comment l'existence de personnes minorisées sont aussi conditionnées par les trous généalogiques, les abysses dans les archives, dues notamment à l'histoire avec un grand H et l'histoire coloniale, là, en l'occurrence. Et donc, comment, en fait, cette histoire coloniale notamment, mais aussi on pourrait parler d'histoire capitaliste, etc., ça va ensemble, créer des trous voulus dans la façon notamment d'enseigner ce qu'elle est, en fait, cette histoire. Mais donc, dans ça, mais également, en fait, dans la façon que on a de percevoir nos existences. En fait, qu'est-ce qui est bon à garder, qu'est-ce qui est bon. Est-ce que nos existences on mérite d'être conservées? Est-ce qui mérite d'y avoir des témoignages sur ce qu'on a vécu et sur ce qu'on est? Donc en fait, c'est tout ça que Dounia, toutes ces questions que Dounia se pose en fait à travers le roman.
Mais au sujet de ce qui mérite d'être gardé ou pas, elle dit aussi dans ce livre que les Blancs, eux, ils ont conscience que c'est important de laisser des traces.
Alors, elle, plus précisément, elle parle. Voilà, c'est ça. Elle parle plutôt. Là, on s'est plus sur une réflexion peut-être qui a un rapport avec la classe. même encore davantage que la race, même si c'est des choses qui évidemment se pensent ensemble, en intersection. Mais oui, elle dit à un moment, elle mène une réflexion, c'est dans une de ses lettres de haine à un personnage qui s'appelle le Moineau, qu'effectivement, elle se rend compte qu'elle a ce qu'elle appelle, je crois, des pulsions d'anéantissement, qu'elle n'a jamais pris soin de conserver des traces de sa vie, parce que, et là, en tout cas, c'est la réflexion qu'elle mène à ce moment-là du roman, elle a jamais grandi avec l'idée que, en fait, c'était important de garder des traces de son existence. Mais c'est pour ça que peut-être la classe, à ce moment-là, est tout aussi importante que la race, parce qu'en fait, elle parle des petites existences, de celles qu'on réduit, donc c'est aussi valable pour les classes populaires, en fait.
Bien sûr.
Pourquoi on garderait des traces de la vie des pauvres ?
Bien sûr.
Et donc, voilà, c'est un peu... elle se rend compte, en tout cas, en côtoyant des gens qui ne sont pas de sa classe sociale, qui sont d'une classe sociale supérieure, que eux, ils ont grandi avec cette conscience innée de l'importance de leur passage sur Terre. Et donc, ils ont un accès privilégié, pour beaucoup d'entre eux, à leur généalogie, à leurs origines, etc., etc. Donc, nécessairement, quand il s'agit de retracer qui on est, d'où on vient, on est un petit peu plus facilité.
On a l'impression aussi qu'elle s'arrête, Dounia, quand elle écrit, et que elle respire à ce moment-là. D'ailleurs, elle le dit finalement, elle range en vieillissant. Elle dit qu'avant on grandit et puis que quand on vieillit, on range. Donc, je trouve que c'est assez joli comme image. Et on a l'impression qu'elle est en mouvement perpétuel et qu'au moment où elle écrit, elle dit plein de choses, hein, sur l'écriture. Elle dit que c'est une conversation avec elle-même. Elle dit que écrire, ça fait des petites vagues. Enfin, il y a une vision. Elle a une vision poétique de l'acte d'écrire aussi. Elle a une vision à la fois intellectuelle, politique et poétique. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a l'impression, dans le souffle de votre écriture à vous pour le coup, que elle est en mouvement perpétuel, qu'elle est en bagarre perpétuelle. Ça, elle le dit. Elle dit que de toute façon, elle doit se battre depuis toujours et pour tout, pour le travail, pour les amours, pour se loger. Voilà, tout est une bataille. Et on a l'impression que quand elle écrit, c'est le moment où, en fait, elle s'arrête. C'est votre cas ?
Oui, je pense que l'écriture, c'est vraiment un... Je ne sais pas si je vais être d'accord avec ce mot une fois que je l'aurai prononcé, mais je vais dire privilège. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais... en tout cas, c'est la possibilité à un moment, quand on a la capacité de se l'offrir, la possibilité de se l'offrir, c'est de pouvoir ouvrir un espace-temps qui nous est propre. Et ça, en fait, c'est... Alors, je ne vais pas me lancer dans des grandes réflexions sur la question de l'espace et du temps, qui sont un peu des questions qui m'obsèdent, mais je trouve que c'est... c'est précieux, en tout cas. Je ne sais pas si c'est un privilège, parce que je pense aussi à une citation de Audre Lorde qui dit « La poésie n'est pas un luxe », et c'est hyper important, je pense, de le rappeler, qu'effectivement, c'est aussi une nécessité et une urgence pour certaines personnes de se dire et de raconter et de faire trace, justement, là où, en fait, on manque de nos histoires. Mais en tout cas, de pouvoir le faire aujourd'hui et d'ouvrir un espace-temps, c'est à la fois le moment du refuge, mais aussi une possibilité de comprendre des choses, enfin de pouvoir faire le point sur certaines choses et de les comprendre mieux. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'utilise l'écriture. Le premier roman de Secondaire qui brûle, c'était déjà dans cet élan-là que je l'avais écrit, mais Daria et Dounia, pareil, c'est qu'est-ce qui... Je vais vraiment résumer la question, parce qu'elle est un peu plus vaste que ça, mais qu'est-ce qui bousille, en fait ? Qu'est-ce qui bousille et pourquoi ? Alors, ça finit probablement en aporie, parce qu'en fait, c'est une question beaucoup trop vertigineuse. Mais... ouais, c'est ça. Pourquoi on arrive à un moment de sa vie et qu'on est sur les genoux et qu'on n'arrive plus à se relever et qu'on est épuisé, enfin, qu'on est dans un trou, quoi. Et alors, l'autre question, c'est comment sortir ça ? Elle s'y attelle pas trop. Mais en tout cas, ouais, c'est qu'est-ce qui conduit à ça et pourquoi ? Donc, elle analyse... Donc, en fait, presque, ce qui est marrant, c'est que je pense que j'ai fait la même chose que mon personnage, à savoir... Il y a un petit parallèle comme ça que j'ai pas voulu, mais moi-même, je comprenais des choses en écrivant ce personnage en train de décrire pour comprendre des choses. Donc.
Et qu'est-ce qui vous fascine et qu'est-ce qui vous happe dans la question de l'espace et du temps ?
Plein de choses. Il y a vraiment des questions philosophiquement basique, peut-être, qui est de vraiment ce fractionnement du temps. Il est quand même hyper impressionnant, en fait, quand on y réfléchit. Enfin, moi, c'est des questionnements très récents, au final, mais je me dis... C'est très naïf, hein, peut-être, mais... elle le dit, Dounia, elle dit, mais à quel moment a-t-on eu besoin de mesurer ce putain de temps à la putain de seconde près ? Voilà, moi, ça me préoccupe encore. Je me dis... Et du coup, une des réponses... qui du coup nourrit cet intérêt que je porte à cette question-là, c'est que cette façon de mesurer le temps, elle n'est pas du tout anodine et elle n'est pas du tout innocente. Et que déjà, on a en fait séparé la mesure de l'espace et du temps. Enfin, c'est comme si c'était deux éléments distincts, alors que en fait, on met toujours du temps à parcourir un espace. Enfin, ce sont normalement des données indissociables. Mais c'est comme si, d'un coup, on avait rationalisé l'un et l'autre de chaque côté, alors que c'est censé fonctionner ensemble. Et les instruments de mesure, les technologies qui nous ont permis de mesurer le temps et donc l'espace, c'est aussi les mêmes technologies qui ont permis au monde tel qu'on le connaît aujourd'hui d'exister. Donc notamment les grandes conquêtes coloniales qui ont permis les États-Unis, clairement. Mmh. Si on n'avait pas eu des instruments de mesure pour savoir se situer dans l'espace et le temps, on n'aurait pas colonisé les États-Unis. Les Amériques, plus globalement. Donc en fait, c'est un peu ces questions-là qui sont ultra vertigineuses, mais de comment la technologie et comment en fait pas quelque chose qui régit notre quotidien, clairement, qui régit l'enregistrement de ce podcast, qui régit tout, et en fait éminemment politique, en même temps qu'il peut vraiment donner une couleur, bouleverser les intimes, etc. Donc bon, je m'arrête là, mais c'est...
Et dans cette réflexion qu'on pressent quand même dans votre écriture, qui est présente, y a une vraie réflexion sur le corps. Et puis la dissociation du corps et de l'esprit à plein d'endroits différents, hein, mais aussi par exemple dans une agression, la capacité de pouvoir se défendre physiquement dans une agression, mais le temps intellectuel, puisque vous parliez de ce qui nous bousille, comme vous dites, et en fait on voit bien, le temps n'est pas du tout le même, la digestion n'est pas du tout la même, et donc votre livre est un livre incroyablement charnel.
Oui, c'est aussi un peu une question aussi préalable à l'écriture du roman qui est c'est tout aussi vertigineux que l'espace-temps, mais c'est, je saurais même pas bien la formuler, mais et c'est aussi valable pour la question du désir. Mais qu'est-ce que serait notre rapport à notre corps, qu'est-ce que serait notre rapport à notre désir ou nos désirs dans un monde conçu différemment que celui-là, dans un monde non patriarcalisé, dans un monde non colonial, dans un monde qui n'est pas régi par le capital, etc. Qu'est-ce que seraient nos désirs ? Et moi, quand j'y pense, je n'ai pas de mots, quoi. Je reste silencieuse pendant une heure. Et le fait est que, en tout cas, je ne sais pas ce que ça serait, mais je sais un peu ce que c'est de devoir vivre fractionné par cette société-là. Et donc, alors là, le roman d'Aria et Dounia, il s'attache plutôt à représenter des violences très ordinaires, très typiques, très communes, néanmoins brutales, mais qui sont vraiment littéralement arrivées à tout le monde, et enfin à toutes les... du moins beaucoup de personnes minorisées, beaucoup de femmes. Et comment la répétition de ces violences-là, elle vient abîmer le corps et l'esprit. Elle vient parfois justement les séparer. Normalement, c'est censé faire un, c'est un vaisseau. Et en fait, d'un coup, on a parfois le sentiment d'avoir le corps à côté et la tête de l'autre. Comment la répétition de ces humiliations, de ces micro-agressions, de ces agressions, etc., vient, créer un rapport au corps complètement distordu, fractionné, morcelé. Et ce dialogue-là qu'elle a avec, du coup, Daria, qui est, du coup, cette partie d'elle-même, vient formaliser un peu cette dissociation. C'est comment... on est dissocié, ok, mais est-ce que c'est possible d'en faire, je sais pas, quelque chose, enfin l'occasion justement d'une discussion. Est-ce qu'on peut essayer de rattraper ces bouts de soi pour se réassocier? Et évidemment, ironiquement, elle file cette métaphore avec toute la question associative, mais ça c'est encore une autre partie du livre, mais qui fractionne également, c'est vraiment la question du travail et de l'épuisement au travail, qui est aussi ce lieu où où on arrive avec un corps et une tête et qu'on repart aussi disloqué, quoi. Donc, comment on se réassocie, comment on fait association.
Et on va y revenir, mais sur cette partie de dialogue qu'elle a avec cette part d'elle-même, qu'elle nomme Daria, cette part d'elle-même est un portrait de l'adolescence aussi. Pas seulement de son adolescence. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure. C'est à la fois intime et en même temps partagé par beaucoup. Sur l'adolescence, elle parle d'une adolescence qui s'ennuie. Elle parle de l'adolescence dans une banlieue parisienne. Elle parle du flou qu'on a sur les souvenirs au collège et au lycée. Elle donne beaucoup d'éléments qui saisissent en fait une sorte de mémoire collective, comme un passage, comme un rituel. Qu'est l'adolescence? Pourquoi c'était important, cette période-là, dans votre livre?
Je sais pas si j'ai une bonne réponse, mais en tout cas, ce qui me vient comme ça, spontanément, c'est que l'adolescence, c'est pour moi tout simplement le moment où il y a un vrai basculement de la... Enfin, je sais pas si c'est une question de perception, mais en tout cas, on ressent plus les choses de la même façon. Il y a plein de premières fois aussi. Et un sentiment continu de découverte. Il y a une forte autonomisation aussi, pas seulement dans les responsabilités qu'on va nous donner, etc., mais aussi dans... Oui, dans la façon dont on se perçoit, dans la façon dont on ressent, dans la façon... Et sur un plan personnel, et c'est aussi ce qui a inspiré le livre, j'ai des souvenirs donc très... parfois diffus, parfois un peu... je sais pas bien dater, etc. Mais pas mal de souvenirs, mine de rien, de cette époque-là. Et il y a certaines émotions qui sont associées à ces souvenirs qui ont presque une odeur, en fait. Je saurais même pas comment qualifier ça, mais il y a vraiment, c'est très sensoriel. Quand je me replonge vraiment, c'est beaucoup avec à l'aide de morceaux de musique ou de. C'est beaucoup. En fait, je mets beaucoup de la culture de manière générale pour faire ressurgir des souvenirs et en reconvoquant des références cinématographiques, des références musicales, même des références en histoire de l'art, etc. Il y a des couleurs et des odeurs qui sont vraiment associées à certains sentiments et certaines... Quelque chose de vraiment que j'ai pas le sentiment, en tout cas, qu'en devenant adulte, j'ai conservé cette chose-là, ce rapport-là au réel. Et en même temps, c'est impossible de savoir si c'était à ce moment-là que les choses étaient ressenties comme ça ou si c'est le souvenir qui a été embarqué. Donc bon, et du coup, c'est aussi ça boucle avec cette histoire de tous les souvenirs qui se font dans un seul et même. Et ça, c'est beaucoup la question de justement pareil avec le rapport au corps, mais de l'errance, de revenir, de faire des trajets répétés quotidiens, de revenir toujours sur les mêmes lieux. C'est beaucoup la question des transports en commun, de prendre le même bus matin et soir. Et en fait, d'un coup, on se souvient pas d'un trajet spécifique, sauf quand il y a eu. Voilà, je sais pas, un événement spectaculaire ou quoi, mais plus de quelque chose de très long et très diffus dans le temps comme ça. Mais oui, je dirais que c'était... Et puis peut-être aussi... Non, j'allais dire quelque chose, mais c'est pas vrai.
Parce qu'en vous lisant, on a l'impression que Dounia, elle a envie de réconcilier quelque chose avec Daria, cette part d'elle-même qui, à l'adolescence, semble avoir manqué un peu de dialogue, de non-jugement, de gentillesse, tout simplement. On a l'impression qu'il y a une forme de réparation.
En tout cas, Dounia, quand elle a donc sa crise de la trentaine, elle constate que le regard qu'elle porte sur elle, elle-même quand elle était plus jeune, il est triste. Enfin, il est pas. Elle se dit qu'elle peut faire mieux que ça, quoi. Il y a quelque chose comme ça où elle a emporté une image d'elle, un peu, oui, voilà, d'une enfant un peu trop timide, trop empotée, qui osait pas assez, qui était un peu, voilà, qui était. Alors qu'en fait, ce qu'elle se rend compte en arrivant à l'âge adulte, c'est qu'elle est probablement, si elle a été lâche adolescente, elle l'est 100 fois plus à l'âge adulte. Et elle se rend bien compte qu'elle a tout faux, en tout cas, et que probablement que la petite Dounia, qui du coup s'appelle Daria, a beaucoup de choses à lui apporter, avait pas mal de ressources, plus d'un tour dans son sac, et surtout savait faire des choses dont elle est plus capable aujourd'hui. Elle se rend compte qu'elle a même plus de loisirs, vraiment, elle utilise son temps pour travailler, voilà, ou sinon pour oublier qu'elle travaille. Et en fait, tout est centré autour de ça, et que au moins sa version plus jeune d'elle-même, elle savait épouser l'oisiveté quand ça lui était permis, et que c'est quand même quelque chose de... Enfin, l'oisiveté, c'est un véritable enseignement. Alors, tout le monde ne peut pas se le permettre, parce que nos vies, elles sont absurdes, parce qu'elles sont tellement tordues et malmenées par nos conditions d'existence, notamment sur le plan économique. Mais je pense que c'est un vrai... Enfin, pour moi, c'est vraiment central, ce... ça fait partie d'un horizon révolutionnaire que de pouvoir accéder de nouveau à l'oisiveté, quoi.
C'est ça, la crise de la trentaine ?
C'est-à-dire ?
C'est quoi la crise de la trentaine ? C'est quoi ? C'est ça ? C'est se rendre compte qu'on a moins d'oisiveté qu'avant ?
Alors, je pense qu'il y a autant de crises de la trentaine que de gens qui ont passé le cap, hein, mais...
Je vous dis ça parce que vous venez de dire la crise. Ouais. Elle traverse la crise de la trentaine. C'est-à-dire ?
En tout cas, sa crise de la trentaine à elle, c'est de se rendre compte qu'elle n'utilise pas son temps comme elle voudrait. Et que là, elle a, je vais pas dire qu'elle a perdu une décennie, parce que c'est trop triste, elle a rien perdu, elle a construit des choses, elle a quand même accumulé des expériences et tout, donc c'est jamais de la perte, mais quand même, en tout cas, elle s'est fait prendre au piège d'un système qu'elle croyait avoir berné, quoi. Elle a passé son diplôme bon an mal an, et qu'elle arrive comme ça à avoir un travail, un espèce de métier passion, une espèce, pardon, de métier passion, où elle se dit qu'elle va pouvoir être alignée avec ses opinions politiques, avec ses aspirations, elle va pouvoir gagner un petit peu d'argent tout en vendant pas son âme. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle se dit, quoi. Et du coup, elle arrive un peu dans le travail post-diplôme, dans cette énergie. Et puis, en fait, rien n'a changé. Enfin, que ce soit ce qu'on appelle les petits boulots étudiants, qui en fait n'en sont pas. C'est pas des petits boulots, c'est des boulots tout court. Ou les grands boulots de diplômés. En tout cas, dans sa branche à elle, elle constate que c'est du pareil au même. C'est juste le décor qui change et la façon de s'adresser peut-être aux salariés, mais c'est pas... Et donc, ouais, c'est un peu un début de décennie marqué par la désillusion, quoi. Peut-être la vingtaine. En gros, peut-être que la vingtaine, c'est un peu... je sais pas c'est quoi la suite de l'antichambre. Je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, voilà, peut-être si l'adolescence, c'est un peu la période où on fait des plans sur la comète, la vingtaine, je trouve en tout cas que c'est encore... Et pourtant, hein, c'est... Mais je sais pas, peut-être que c'est la jeunesse qui veut ça, parce que même quand on n'a pas forcément toute la possibilité de l'insouciance, qu'on n'a pas, je sais pas, enfin qu'on est obligé de bosser, etc., à côté de ses études, et que payer ses factures et tout, donc il y a quand même, en fait c'est déjà la vie d'adulte, il y a quand même, je pense peut-être que c'est lié à la jeunesse, cette possibilité de se dire, ouais, mais après, les choses, elles ont pas encore bien commencé, en fait, ça va peut-être venir encore après, il y a encore un après. Et peut-être que la trentaine, c'est le moment où on réalise qu'il n'y a pas d'après, en fait, que ça a commencé depuis toujours. Et que du coup, l'idée, c'est de continuer, et que les problèmes vont jamais s'arrêter, et que voilà, c'est ça la vie, en fait.
Est-ce que c'est un livre qui est autant sur la déception que sur cette sorte de solitude très profonde dont prend conscience Dounia ?
Je sais pas. Est-ce qu'elle prend conscience de... En fait, elle prend peut-être conscience de la solitude à ce moment-là, je sais pas bien. Mais surtout, elle prend conscience des bienfaits de la solitude. C'est surtout ça, je pense, le point de bascule important pour elle dans l'histoire du livre. C'est que... Et d'ailleurs, je sais pas à quel point c'est subtil dans l'histoire, mais... C'est incarné par toute une série de symboles, dont les six tentures de la dame à la licorne. Mais si elle s'y confronte à un moment au musée du Moyen-Âge, c'est vraiment une manière de parler de solitude choisie. et à quel point ça fait du bien de passer du temps avec soi-même, notamment quand on s'est fait autant abîmer, que c'est un moyen de, assez efficace de régénération, même si j'en fais pas une généralité, parce qu'il y a des personnes pour qui ça va être beaucoup plus vertueux d'être en collectif ou d'être en relation, etc. Mais en tout cas, pour elles, épouser et apprendre la solitude, c'est vraiment structurant dans ce début de trentaine.
Oui, ce passage sur la dame et la licorne, il est important. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi parce que votre livre est vraiment rythmé par des références culturelles assez puissantes. Il y a beaucoup Christophe Honoré, par exemple. Les films de Christophe Honoré sont très importants. Pourquoi ?
Oui, elle les a tous vus, Dounia, ces films-là. Et je pense que c'est une... Elle est amoureuse du 7e art. Ça fait un peu la formule toute faite, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui... Voilà, Dounia, c'est une personne assez cinéphile. Et dans son adolescence, mais aussi d'ailleurs dans son jeune âge adulte, elle est assez admirative de l'œuvre de Christophe Honoré. Et je pense que c'est parce que c'est aussi une collection de films. Alors, il a fait des films très, très différents, mais elle parle, je crois qu'elle parle de Homme au bain, elle parle des chansons d'amour. Homme au bain, je le mets de côté, mais en tout cas, les chansons d'amour ou La belle personne, c'est des films qui mettent en scène des personnages qui sont absolument pas elles. Et que, quelque part, c'est une manière de se projeter dans une forme de normativité, comme ça, de normativité qui a ses limites. Mais en tout cas, voilà, je crois qu'elle dit dans le livre, elle évoque l'idée que les films sont des histoires d'adultes blancs et mélancoliques, un truc comme ça. Et oui, c'est une manière de rêver à ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle n'a pas. Et c'est presque de la fantaisie à ce stade, quoi. Mais aussi, et je pense que ça, c'est important de le dire, ces films-là, ils interrogent des choses assez universelles. Et les chansons d'amour, c'est quand même la question du deuil au centre, de la perte d'un amour. Et ça, tout le monde peut le ressentir. Donc, c'est des choses qui, je pense... en tout cas, moi, je l'ai vue adolescente et c'est vraiment un film qui m'a bouleversée parce que c'est tout.
Vous l'avez évoqué, hein, il est question aussi du rapport au travail dans ce livre et du rapport à l'amour. C'est à la fois proche et vraiment très différent dans votre façon de le traiter. Mais ce qui se remarque en tout cas, c'est que vous parlez de programmation de l'échec. Vous parlez de cette répétition de choses qui ne fonctionnent pas et de cet endroit où Dounia semble se dissocier de son corps comme une programmation pour ne pas s'attacher.
Pour ne pas s'attacher
à personne. Comme si c'était dangereux. Elle est avec le mec qui vivait déjà là, tout ça écrit en mot valise. Ces rencontres font que c'est comme si elle mettait de côté son corps d'une part et puis qu'elle fait des rencontres et elle parle, encore une fois, de programmation de l'échec dans ce côté de choses qui ne se répètent pas. Et on a la sensation qu'elle est programmée pour ne pas s'attacher.
Oui, alors c'est intéressant parce que je trouve que ça va aussi avec sa passion Christophe Honoré. C'est qu'il y a quelque chose comme ça de... Je le veux, mais je le veux pas. Je veux cette situation, mais je me sens pas capable de l'assumer. Je veux ces choses, mais elles ne semblent pas faites pour moi. En l'occurrence, là, il s'agit de l'amour, pareil, en essayant de comprendre ce qui l'a mené à faire certains choix, ce qui l'a mené à croiser le chemin de certains hommes, elle remonte jusqu'à la période de l'adolescence, même avant d'ailleurs.
Oui, avant, Kevin, il est avant.
C'est vrai, elle remonte, presque à la petite enfance.
Ouais.
Disons que moi, mais quelque part, c'est vrai qu'elle a du libre arbitre dans cette histoire aussi. Ce que j'allais dire, c'est quelque chose qui lui arrive, sur lequel elle n'a pas forcément de pouvoir, mais bon, elle n'a pas de pouvoir sur le racisme. Mais en tout cas, c'est elle qui lui propose de sortir avec. Elle a 3 ans et elle propose du coup à ce Kevin de la récré de sortir avec elle. Et il ne veut pas, parce qu'il est raciste. Et il est déjà raciste, même, on peut dire.
Il lui dit oui, mais si tu changes de couleur de peau.
Oui, c'est ça.
Ce qui est fou comme phrase.
Oui, pas si fou en vérité.
Bah, parce moi, je découvre que ça ne l'est
pas.
Mais alors...
c'est un peu l'événement inaugural de la vie d'une femme noire en France. Mais je pense qu'on l'a toutes vécu de près ou de loin.
Ça plus, du coup, pardon, je vous interromps parce que moi, pour le coup, je suis un peu tombée de ma chaise. Et d'ailleurs, je vous remercie. Ça, et puis le fait aussi que les petites filles noires essayent de garder la mousse du savon sur la peau parce que ça fait un peu de blanc quand même.
Oui, alors bon, ça, c'est la solution farfelue que Daria, donc petite Dounia, trouve sur le coup pour essayer de solutionner le problème de Kevin. Et donc, c'est aussi une manière, outre les questions raciales, de parler aussi de comment, très, très, très tôt, on apprend à se mettre en tant que femme à la disposition des hommes. Il arrive avec un problème qui est le sien et pourtant, c'est à elle de le solutionner. Et c'est quelque chose qui va se répéter toute sa vie. Donc, c'est une manière aussi d'aborder cette question-là. Donc, voilà, dès 3 ans, 3-4 ans, Je dois réfléchir à comment solutionner le problème de ce monsieur. Et donc, je ne me souviens plus du tout de la question initiale.
Oui, je vous avais lancé sur cette question que moi, je me suis posée sur le fait que cette Dounia a du mal à s'engager parce qu'elle considère que finalement, elle, comme vous le disiez, ce n'est pas pour elle. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est programmé ? Dans son histoire de vie, est-ce que finalement tout converge, selon vous, pour qu'elle arrive à cette forme de ce qu'elle appelle, elle, la programmation de l'échec ? Parce qu'elle dit que c'est des relations amoureuses dont elle sait dès le départ que ça n'ira nulle part. Elle sait dès le départ que c'est foutu d'avance, que ça sert à rien d'y aller. Mais elle y va quand même. Et donc, se pose cette question.
Je pense en tout cas que c'est certainement un personnage qui a compris la douille. Et en même temps qui est effectivement, alors elle dit programmée pour l'échec, mais avant d'être programmée pour l'échec, ou peut-être après, ou peut-être parallèlement, elle est programmée pour tout un tas de choses, c'est-à-dire pour la normativité déjà. Et du coup, elle espère et elle désire et elle rêve et elle fantasme sur les choses qui sont les choses qu'on est sur les choses qu'on est supposé vouloir en fait dans la vie, quoi, c'est-à-dire un couple monogame, hétérosexuel, etc. Parmi tant d'autres choses, c'est pareil pour le métier. Un métier en CDI, avec un salaire décent tous les mois, c'est les choses c'est ce à quoi on est supposé aspirer. Et donc, on essaye de tout mettre en œuvre pour l'obtenir. Et effectivement, dans son cas, c'est comme si ça imprimait un double mouvement où, en fait, elle est colonisée de l'intérieur par ses désirs qui sont pas nécessairement les siens. De toutes les manières, elle sait plus ce qu'elle désire. Elle sait pas si elle l'a su un jour, d'ailleurs. Donc, elle essaye de tendre vers ces aspirations-là qui sont les siennes ou pas. Et en même temps, elle met les choses en échec parce qu'en fait, elle se sent pas à la hauteur, elle se sent pas désirable, elle comprend pas ce qu'on attend d'elle sur le plan aussi social, c'est-à-dire vraiment vraiment bêtement des interactions sociales les plus communes. Comment je suis censée agir dans cette situation où, pour le savoir, il faudrait déjà que je l'interprète comme un moment de désir de l'autre. Si c'est ça, comment je suis censée y répondre? Et les moments d'ailleurs où elle identifie clairement qu'il s'agit par exemple du désir d'un homme dans une interaction, la réponse est automatique, c'est je vais me mettre à disposition. Mais sinon, elle a du mal, en tout cas, Dounia, à interpréter les zones de flou. Elle sait pas bien. Voilà.
Mais c'est intéressant, cette histoire de curseur, finalement. Vous parlez de ça, parce que dans ce que vous évoquez comme une domination masculine, et notamment aussi à travers du travail, hein, on le disait tout à l'heure, vous évoquez des situations qui sont très différentes, des situations de vie aussi, entre le rendez-vous chez le gynécologue qui est à pleurer, son travail dans un milieu associatif qui est vraiment désolant. Il y a aussi, par exemple, ce moment où elle rencontre un réalisateur de cinéma qui finalement va pomper ses idées, son énergie, sa vitalité, qui elle est, elle. Et vous nous amenez à saisir ce qu'il y a de violent juste dans cette façon d'être. J'ai envie de dire presque tout simplement, sans qu'il y ait besoin, parce que dans les autres situations, vous nous amenez à voir que dans les autres, on a besoin de preuves, de dates, de détails. Ce que vous évoquez dans votre livre, c'est quelque chose qui est insidieux, qui est permanent.
Oui, alors, oui, c'est ça, c'est assez insidieux, même s'il y a peut-être un détail dans la lettre qui l'est moins. Mais globalement, ouais, c'est plutôt quelque chose... Bah, en fait, cette lettre, elle est importante, je dirais, parce que dans des situations d'agression, justement, on est souvent bien en peine de pouvoir justifier de ce qui nous arrivait. C'est un peu le... Enfin, je le dis... C'est pas très précis comme manière de le dire, mais en tout cas, souvent on demande aux personnes des preuves, on demande des précisions, on demande. Alors qu'en fait, bah, déjà, il y a le traumatisme qui fait que bah, parfois on n'était tout simplement pas là. Donc c'est hyper difficile de revenir sur des souvenirs, etc. C'est vraiment à la fois une épreuve. Parfois, en fait, il y a littéralement des moments d'amnésie, etc. Bon, ça, c'est pour la partie un peu plus technique, mais aussi tout simplement, des fois, c'est les choses, elles sont pas caractérisables. Avec elles sont difficilement descriptibles et notamment dans les questions beaucoup par rapport aux questions de racisme où c'est beaucoup des questions de ressenti. J'ai lu quelque part, mais je crois que je vais pas pouvoir citer ma source, je suis désolée par avance, mais quelqu'un qui disait mince, où est-ce que j'ai vu ça, je suis vraiment désolée, je vais pas pouvoir citer ma source, mais qui faisait la comparaison avec le fait de goûter du vin quand on s'y connaît pas du tout en vin. Et de goûter du vin quand on s'y connaît. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'y connaît va repérer des notes de tabac, de noix, de tout un tas de choses dans un bon vin, admettons. Quelqu'un de novice ne va pas ressentir toutes ces nuances-là. Pour autant, c'est pas parce qu'il ne les ressent pas qu'elles n'existent pas. C'est pareil pour les questions antiracistes ou pour des questions antisexistes, etc. En fait, c'est pas parce que tu ne peux pas, la personne à qui je m'adresse, tu ne peux pas voir ce que je te décris, que ça n'existe pas. Donc cette lettre-là, elle est assez importante, je pense, pour peut-être comprendre ces mécanismes-là, même si, bah, en analysant, elle revient nécessairement sur elle, ce qui l'a vraiment mis très mal à l'aise, en fait, et très inconfortable dans cette scène-là, on va l'appeler comme ça. Mais j'arrive plus à retracer la question, du coup je suis en bug.
Non, mais je vous demandais en fait finalement ce qui ressort de votre livre. Je vous interrogeais sur le fait qu'il y a une sorte de pression diffuse dans le livre, ouais. Caractérisée à des moments très précis, mais aussi comme une ambiance.
Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, l'idée c'était un peu de décrire comme peut-être c'est un abus de langage, je sais pas, mais comme en fait ça. La vie, elle peut être carcérale des fois, sans pour autant qu'il y ait de structure architecturale bien définie autour du corps, quoi. Et là, bon, précisément, en plus, c'est un peu un huis clos, cette scène du dévoreur. Donc, c'est le nom du personnage qui est ce réalisateur de cinéma. Il y a un peu une forme de prise d'otage parce qu'elle est dans les bureaux et qu'elle ne peut pas vraiment sortir et que lui, il lui parle, il la fait parler. Et il lui pompe toute son énergie comme ça. Et en fait, toujours pour revenir à cette question, pour revenir à cette question du temps qu'on évoquait tout à l'heure, là, je crois que c'est, elle le dit pas nécessairement, mais ça a son importance. C'est qu'en fait, elle le dit d'une certaine manière à la fin. Mais le jus et l'énergie qu'elle a donné à cette personne. Qu'elle pensait lui devoir, une fois que c'est donné, c'est fini. Elle ne peut pas le récupérer. Elle ne récupérera pas son temps. Elle ne récupérera pas son énergie. Et en fait, c'est une catastrophe. Et ça l'amène à réfléchir à la façon dont elle a envie et dont elle devrait diriger son énergie et son temps et à qui elle devrait le concéder, le donner, l'offrir même, plutôt. À qui on offre nos heures, en fait. Et ça serait intéressant pour elle, en tout cas, ce qu'elle se dit, c'est de les offrir à quelqu'un qui les vaut, à quelqu'un qui va en faire quelque chose, à quelqu'un qui va les lui rendre, peut-être, en tout cas, dans un cadre où il y aurait de la réciprocité. Et voilà, elle se rend compte en tout cas qu'elle s'est fait complètement épuiser, piller, vraiment, elle s'est fait extraire en fait, et qu'elle repart sans rien. Elle a tout donné, parce qu'elle est tout le temps à 100% comme ça, tout le temps à partager ses idées, c'est quelqu'un de généreux, Dounia, et en fait, elle repart avec rien. Et elle finit la lettre comme ça, en disant, elle pense à Aya Nakamura, qui a ses séquences hyper marrantes, où elle répond... On dit qu'elle est dédaigneuse, mais c'est pas ça. Elle est juste habile, en fait. Elle répond souvent, quand des journalistes ont lui posé des questions comme ça, un peu de bas étage, elle va répondre de la même manière, en fait, sur la même fréquence. Elle se dit, mais ça, c'est vraiment inspirant, en fait. Moi, j'ai envie de faire ça aussi. C'est-à-dire, si on me donne, comme ce réalisateur de cinéma, là, il arrive, il lui donne 5%. Pourquoi lui donner 100%? Il faut que je lui donne 5% aussi, il n'y a pas de raison.
Pourquoi des lettres? Est-ce que vous écrivez des lettres dans votre vie?
Non, plus maintenant. J'en ai écrit quand j'étais plus jeune, mais parce que ça se faisait encore, je pense. J'avais une correspondance avec ma grand-mère, notamment. Mais ça s'est arrêté avec toute la place qu'Internet a prise. Enfin, ça s'est arrêté, ça s'est transformé. On a d'autres types de correspondance maintenant. Mais l'espace-temps de la lettre, il est intéressant parce que... Alors là, évidemment, c'est un matériau littéraire, donc c'est forcément assez travaillé. Il y a pas mal de choses qui ont été coupées au montage, mais le matériel initial de ces lettres, c'est des véritables lettres, et c'est un déversoir pur et dur, en fait. Et pour le coup, c'était à la base une démarche thérapeutique, tout simplement, où j'ai ouvert des tableurs Excel, des fichiers Word, où juste je me disais écriture automatique. En fait, il n'y a même pas la notion d'écriture, c'est juste tu penses à cette personne ou tu penses à cette situation et tu dis tout ce que tu as sur le cœur sans même essayer de faire beau, sans même essayer. Arrête de penser aux répétitions que tu as. On s'en fout. Il n'y a pas à répéter. On s'en fout. Écris tout ce qui te vient à l'esprit. Et en fait, je ne sais même plus où sont ces lettres, mais elles sont ingérable, clairement, c'est vraiment, il y a des insultes, c'est vraiment un déversoir. Et en même temps, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça m'a permis de pouvoir faire fiction après. Et du coup, dans un deuxième temps, de dire bon qu'est-ce qui reste de ça, qu'est-ce qui est bon à garder, comment est-ce que je suis parvenue à des débuts d'analyse, etc. Et donc de pousser le geste un peu plus loin et puis de créer des personnages. Mais je pense vraiment que la lettre, c'est quelque chose de très connu dans les psychothérapies et tout. Donc vraiment, je n'invente rien, mais je confirme que ça fait vachement de bien. Et l'idée d'écrire, le mouvement d'écrire, parce que je pense qu'il s'agit quand même de... C'est pas seulement quelque chose de cérébral, c'est aussi vraiment de mettre son corps en action. C'est comme si on déposait quelque chose à un endroit et qu'on s'en allégeait. Et ça va aussi avec l'idée de faire archives. Les archives, c'est quand même un espace-temps aussi. On peut consulter des choses, mais une fois qu'on est sorti des archives, on peut éventuellement penser au reste de la vie. Donc là, c'est aussi l'idée de consigner ses pensées pour ne plus avoir à les trimballer avec soi tout le temps, en tout cas espérer ne plus avoir à les trimballer.
Mais alors, à qui elle s'adresse cette lettre? Parce que le mot même de la lettre, tel qu'on l'entend postier, c'est pour être envoyé. Or là, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de l'envoyer finalement aux personnes concernées. D'ailleurs, vous dites ça à propos de Kevin, par exemple, vous dites c'est pratique parce que de toute façon, il est absent. Il est absent physiquement. Je peux en dire ce qui est un passage assez drôle. Mais du coup, l'utilisation du mot lettre là est transformée, puisque comme vous le dites, ça devient un outil de travail de la fiction. Et du coup, est-ce qu'il manque un mot pour raconter le fait d'écrire de cette façon-là, une sorte de correspondance qui sert à accumuler des données personnel pour en faire après un travail de fiction, puisque cette lettre, encore une fois, n'est pas à une seule seconde destinée à être envoyée.
C'est un peu un double jeu sournois que je mène du coup et que mène en parallèle mon personnage, c'est que elles sont pas destinées à être envoyées, mais à la fin elles sont publiées, donc il y a quand même quelque chose où elles sont données à lire. Alors, pas à leur destinataire, puisque il s'agit de personnages de fiction, en l'occurrence.
En même temps, on ne sait pas.
C'est-à-dire
Peut-être qu'ils vont lire.
Alors, ils n'existent pas, donc après, bon, évidemment, la fiction s'est inspirée de la réalité, donc forcément, il y a pas mal de petites choses du réel qui se cachent dans le livre, mais c'est une espèce de, je saurais pas comment qualifier ça, mais un procédé, un protocole un peu malicieux. De dire qu'on écrit une lettre qu'on ne va pas envoyer, mais en même temps, elle est quand même publiée dans un livre. Donc, elle est rendue publique d'une certaine manière, consultable. Et que, du coup, cet acte qui relevait de la, je sais pas, voilà, de la réparation, ou en tout cas de quelque chose de très intime, devient d'un coup une expérience éventuellement collective. Ou en tout cas, qui se peut se dérouler entre le lecteur, la lectrice et l'objet livre, et donc les personnages à l'intérieur. Mais après, en fait, ce que fait Dounia sans vraiment y parvenir, c'est tout un travail d'analyse. En fait, elle appelle ça des lettres de haine, mais ça en est pas vraiment, parce que y a rarement des moments, il y a des petits moments où elle se permet comme ça là d'être rageuse et de... Mais en fait, la plupart du temps, elle se livre surtout à une analyse. Elle essaye vraiment de comprendre, mais pourquoi, en fait, on se fait fumer la tronche tout le temps, comme ça, quoi, en fait, dès qu'on met un pied dehors. Pourquoi ? En fait, c'est ça qu'elle essaye de démêler. Et du coup, souvent, elle fait des questions et les réponses. Parce que vu qu'elle est toute seule, elle est là en mode, pourquoi tu m'as fait ça? C'est certainement pour ça. Hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3, hypothèse 4, et ainsi de suite. Et qu'il y a une lettre qui me vient à l'esprit en particulier, qui est celle qu'elle adresse à un personnage qui s'appelle Anonyme de la Fête de la Musique, qu'il a agressé pendant une fête de la musique, et où elle dit, et ça c'est assez important pour moi en tant que femme et en tant qu'autrice et en tant que humaine, on a beaucoup parlé, pas encore assez, notamment des questions de violence sexiste et sexuelle. On commence à avoir un très beau corpus de textes autour de ces questions. Mais ce qui nous manque, c'est quand même la question des bourreaux, en fait. Je les appelle comme ça, c'est un mot un peu fort, mais en fait, la fameuse question du monstre ou du pas monstre ou de l'homme ordinaire, on ne sait pas trop d'ailleurs, c'est sujet à débat. Mais qui s'occupe de ça? Enfin, il y a quelque chose, et elle le dit un peu dans cette lettre, elle ne dit pas qu'on a fait le tour, on n'aura jamais fait le tour de la question, mais on est... En fait, ce qu'elle dit, c'est que on en parle. Entre nous, avant même d'en parler dans des livres, on en parle entre copines, on en parle avec ses proches, etc. Et c'est ce qui nous permet de nous rendre compte qu'en fait, on est toutes et tous concernés par ces questions-là, de près ou de loin. Mais par contre, le pourquoi de l'agression, il reste encore assez mystérieux, en fait. Un exemple très connu, c'est les procès de Mazan. On a eu beaucoup de littérature à ce sujet. Beaucoup, c'est une façon de parler, mais en tout cas, il y a eu pas mal d'écrits, d'analyses sur ce sujet, mais qui parlent plutôt de la question de la victime et pas tant de la question de... On a dit que c'était des hommes ordinaires, etc., mais on n'est pas allé beaucoup plus loin que ça. Et voilà. Je pense qu'il y a vraiment une béance et que tant qu'on aura, on se sera pas attaqué à ça, on va avoir du mal à aborder la question dans son intégralité, parce qu'il manquera toujours quelque chose, vraiment un point aveugle, ou enfin un hors-champ, mais abyssal, quoi.
Et ce sera ma dernière question. Sur cette question-là, votre livre, justement, soulève le principe d'adaptabilité des femmes, comme vous l'avez un peu évoqué dans cet échange, sur le fait, en voulant comprendre l'autre, de pouvoir aussi se mettre à sa portée, à la portée de son désir à lui, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et du coup, de vous souligner dans ce livre le principe de domination avec deux axes, on pourrait dire, enfin ce serait assez réducteur par rapport à votre livre, mais en tout cas pour cet échange, on pourrait garder deux axes, qui est d'un côté celui de l'apprentissage d'une certaine docilité, et de l'autre, un principe d'adaptabilité particulièrement épuisant.
Oui, c'est un paradoxe effrayant. Elle est... Bah, Dounia, elle a vraiment ce truc-là. C'est pas pour rien, en fait, que dans cette collection de lettres de haine, il y a des personnages qui sont à la fois des agresseurs sexuels et des personnages qui vont être son patron qui l'a licencié. Elle fait le lien entre toutes ces violences parce que ça forme une continuité, voire même un continuum. Et il y a effectivement cette... pour pouvoir continuer de vivre, c'est-à-dire vraiment matériellement, remplir son frigo, pour pouvoir rester en vie, c'est-à-dire vraiment pouvoir se nourrir, etc. Donc il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut aller travailler. Pour pouvoir aller travailler, il faut accepter souvent d'être dominé. Parfois, ça va avec des formes d'humiliation. Parfois, ça va avec des formes d'exploitation, etc. Donc elle, c'est ce qu'elle vit, en tout cas. Et de l'autre côté, elle a ça aussi avec les relations romantiques, sexuelles, etc. Et en même temps, elle arrive à un espèce de carrefour de sa vie où elle se dit, bah, et d'ailleurs, elle le dit dans la lettre au patron, elle dit, bah, je te remercie pour le diagnostic d'insubordination chronique que tu as fait à mon égard. Ça me permet de me dire qu'au fond, je suis peut-être pas totalement morte, mais que je suis encore, je sais plus comment elle le dit, mais encore un peu arc-boutée sur les bords. En tout cas, j'ai encore en moi une capacité à m'insurger, à me révolter, à m'émeuter. Et elle espère que cette affection est contagieuse. Et que du coup, voilà, bref, ça dit ce que ça dit, quoi. Mais oui, c'est ça, elle est à la fois dans une quête de... En fait, c'est un paradoxe absolu. C'est ne pas se laisser écrabouiller par le système, essayer de ne plus avoir à survivre, mais de pouvoir vivre tout simplement. Et en même temps, faire ça demande une adaptation permanente. Et du coup, une adaptation permanente conduit à un épuisement chronique. Donc, bon, c'est une aporie, mais du coup, ouais, c'est ça. Je pense que c'est le paradoxe qu'elle étudie tout au long du livre et quant auquel elle n'a aucune réponse. Enfin, par rapport auquel elle n'a aucune réponse.
En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous en parler pendant une heure. Et puis, on vous attend pour la prochaine édition, la suite finalement de votre travail de recherche, effectivement, sur la place, sur le lien aussi, qu'on sent vraiment dans votre écriture. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.